ordinateur, plus puissante encore, pour découvrir quelle était en réalité la véritable question. Et cet ordinateur, qui s'appelait la Terre, était si large qu'on le confondait fréquemment avec une planète. Confusion faite en particulier par les drôles de créatures simiesques qui grouillaient à sa surface, sans se douter le moins du monde qu'elles n'étaient que de simples composants dans un gigantesque programme d'ordinateur. Et le plus drôle est que, faute de connaître ce détail aussi élémentaire qu'évident, rien de ce qui ait jamais pu arriver sur Terre ne pouvait revêtir le moindre sens. Malheureusement, toutefois, juste avant l'instant critique de la sortie de la réponse, la Terre devait se trouver à l'improviste démolie par les Vogons, sous prétexte, dirent-ils, de laisser le passage à une nouvelle déviation hyperspatiale, tant et si bien que tout espoir de jamais découvrir un sens à la vie s'évanouit sans recours. Ou du moins, c'est ce qu'il sembla. Car deux de ces bizarres créatures simiesques survécurent. Arthur Dent fut sauvé à la dernière minute parce qu'un vieux pote à lui, Ford Préfect, se révéla contre toute attente natif d'une petite planète quelque part aux confins de Bételgeuse, et non point du tout de Guilford, comme il l'avait jusque-là prétendu. Et plus précisément, parce qu'il avait le coup pour se faire prendre en stop par les soucoupes volantes. Tricia Macmillan, alias Trillian, avait décarré de la planète 6 mois plus tôt, en compagnie de Zaphod Beeblebrox, alors encore président de la galaxie. 2 survivants. Les seuls vestiges de la plus ambitieuse expérience jamais entreprise pour découvrir la véritable question et la réponse définitive à cette question fondamentale de la vie, de l'univers et du reste. Et à moins de 800 000 kilomètres de leur astronef, qui glisse en ce moment avec langueur dans le noir d'encre de l'espace, un vaisseau Vogon s'approche lentement dans leur direction. Chapitre 1. Comme tout vaisseau Vogon, il donnait moins l'impression d'avoir été dessiné que plutôt congelé. Les déplaisantes excroissances jaunes et autres édifices qui ensaillaient sous des angles peu convenables auraient défiguré plus d'un astronef, mais en ce cas précis, la chose était tristement impossible. On a pu observer dans le ciel des objets plus laids, mais ce sont des témoignages peu dignes de foi. À vrai dire, pour voir quelque chose de plus laid qu'un vaisseau Vogon, il vous faudra pénétrer à l'intérieur et regarder un Vogon. Si vous êtes un esprit avisé, toutefois, tel est précisément le genre de chose que vous vous garderez bien de faire, car le Vogon moyen n'y réfléchira pas à deux fois pour exercer à votre encontre des actes si stupidement répugnants que vous en regretteriez d'avoir vu le jour, ou, si vous êtes plus malin, que vous regretteriez que le Vogon lui-même ait vu le jour. En fait, le Vogon moyen n'y réfléchira sans doute même pas du tout. Ce sont des créatures d'esprit simple, de volonté pesante et de cerveau lent, et la réflexion n'est pas vraiment une activité pour laquelle elles montrent des dispositions. La dissection d'un Vogon révèle que son cerveau était à l'origine un foie hideusement déformé, dyspeptique et fort mal situé. Aussi, tout ce que l'on puisse honnêtement dire des Vogons, c'est qu'ils savent ce qu'ils aiment, à savoir, en général, faire du mal aux gens et, dans la mesure du possible, se mettre dans des colères noires. S'il est en revanche une chose qu'ils n'aiment pas, c'est de laisser une affaire en plan. En particulier pour ce Vogon-là, et plus particulièrement, et pour diverses raisons, pour cette affaire-ci. Le Vogon en question était le capitaine Prostechnik Vogongels du Conseil galactique de planification hyperspatiale, et c'était à lui qu'était échu le boulot de démolir la prétendue planète.